Bonjour.
Bonjour.
En première page du Parisien aujourd'hui en France, ce titre, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Le journal choisit ce titre engageant, c'est le titre d'une chanson de Ray Ventura qui date de 1938 pour évoquer le classement mondial du bonheur qui lui date d'hier, publié sous l'égide des Nations Unies. La France y recule au 27e rang sur 143 pays, c'est 6 places de moins que l'an dernier, c'est loin derrière la Finlande que le voisinage avec la Russie ne suffit donc pas à démoraliser. Et c'est juste devant l'Arabie Saoudite, je ne commente pas. Les critères du classement, rappelle le Parisien, sont le PIB par habitant, le soutien social, la perception du niveau de bonheur, de liberté, de générosité et de corruption. Les Français sont donc plus défaitistes que les autres, car en prenant en compte le réel, tout indique que notre pays devrait évidemment être beaucoup mieux classé. Apparemment, c'est encore pire chez les jeunes. La France est 48e sur 143, donc chez les moins de 30 ans.
Avez-vous des explications? Y a-t-il dans la presse des explications à cette sinistrose hexagonale?
Rien d'objectif en tout cas. Par exemple, la crise sanitaire du Covid, qui est retenue pour avoir eu des effets délétères sur la santé mentale des jeunes, on retient ce critère, mais il faut bien observer que l'épidémie était mondiale, relève le Parisien. Notre société valorise trop la réussite individuelle, hasarde aussi un pédopsychiatre dans le journal, mais ça voudrait dire que la réussite ne rend pas heureux, ça se discute. L'intelligence artificielle fait peur, la guerre climatique menace, avance le sociologue Jean Viard, mais ça aussi, ça vaut pour tous les pays, me semble-t-il. Plus intéressant, le psychiatre François Lelore diagnostique ceci. Le grand poison, ce sont les conflits, en famille ou à l'extérieur. Il ne s'agit pas de fuir les disputes, mais d'être capable de négocier, de rester soi, sans agresser inutilement l'autre. C'est à méditer utilement. Peut-être qu'en France, on se dispute un peu trop.
Ça, c'est sûr. Notre morale, d'ailleurs, ne va pas s'améliorer en lisant les titres de la presse sur le déficit budgétaire. C'est l'alerte rouge. Vif.
Dette, déficit, vent de panique au sommet de l'État, titre Le Figaro, qui décrit Emmanuel Macron et Bruno Le Maire à l'épreuve d'une dramatique équation budgétaire. Pour Le Monde, Macron est pris dans la nasse de la crise des finances publiques. C'est un peu moins catastrophique dans Les Échos, mais à peine. Déficit, le scénario qui inquiète Macron, car l'objectif d'un retour sous les 3% s'éloigne et que les comptes de la Sécurité sociale dérapent encore. Le journal L'Opinion évoque aussi la réunion de crise tenue hier soir à l'Élysée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Gabriel Attal a tout de même dévoilé hier des résultats spectaculaires dans la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, ce qui fait dire à Libération que Attal joue les VRP de son plan anti-fraude.
Le Parisien révèle que 140 000 piscines non déclarées ont été repérées par le fisc.
S'il faut vivre caché pour vivre heureux, voilà qui ne va pas résorber notre déficit de bonheur. Grâce à un logiciel de vérification élaboré avec Capgemini et Google et boosté à l'intelligence artificielle, le fisc passe au crible les vues aériennes de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, ce qui permet de détecter les fraudeurs. Grâce aux piscines, l'État touche donc des fonds et au-delà, Gabriel Attal vante des résultats historiques, relève Les Échos. Les sommes réclamées par le fisc aux particuliers atteignent 15,2 milliards d'euros, mais j'ai bien dit réclamé. Le journal précise qu'en réalité, Bercy n'a récupéré que 10,6 milliards d'euros l'an dernier et que ce chiffre est inchangé depuis 3 ans. L'Opinion y voit la preuve que la lutte contre la fraude n'est pas une recette magique pour redresser les finances publiques comme voudraient le faire croire certains.
10 milliards et demi l'an dernier, c'est pas mal. Hein. C'est quasiment le montant des économies budgétaires annoncées.
Mais c'est beaucoup moins que ce qui est réclamé.
Voilà. Alors, ce qui semble indiscutable, en revanche, c'est que l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes risque de coûter très cher à l'État.
1,6 milliard d'euros, c'est l'indemnité que réclame le groupe Vinci qui avait obtenu en 2011 la concession de cet aéroport qui s'est envolé, comme chacun le sait. Demande formulée hier, devant le tribunal administratif de Nantes et Ouest-France le raconte ce matin. En rappelant que le projet avait reçu le feu vert de la population dans un référendum local en 2016, ce sont les zadistes et leur opposition parfois musclée qui l'ont finalement emporté. Et en 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a renoncé. Vinci dénonce donc aujourd'hui une faute de l'État. Pas du tout a dit à l'audience hier le rapporteur public, qui estime que le projet était dépassé et que la situation était devenue inextricable, de sorte que le retrait du projet d'aéroport relevait d'un motif d'intérêt général. Si les mots ont un sens, c'est donc une validation de l'obstruction des zadistes contre des procédures parfaitement régulières et un vote totalement démocratique qui a été prononcé hier devant le tribunal. 19 000 grenades lacrymogènes ont été tirées sur place, apprend-on dans Ouest-France. Et en effet, c'est à pleurer.
Surtout quand c'est lacrymogène. De quoi nous réjouir pour terminer ? Le Viagra pourrait s'avérer efficace contre la maladie d'Alzheimer.
Scoop revigorant à lire sur le site slate.fr d'après une information du quotidien britannique The Guardian. Il ressort d'une étude du University College de Londres que les hommes qui ont recours à la fameuse pilule bleue ont 18% de risque en moins de développer une pathologie cérébrale et une démence du type Alzheimer. La courbe est spectaculaire, si j'ose dire. Chez ceux qui prennent des doses de Viagra les plus élevées, le risque diminue de 44%. Le sildenafil, qui est la substance active du Viagra, détend les vaisseaux sanguins et favorise la circulation du sang. C'est pourquoi, au départ, le médicament était destiné au traitement de l'angine de poitrine. Les premiers essais étaient décevants et Pfizer, le fabricant américain, a failli renoncer à sa production. Si l'efficacité contre Alzheimer devait se confirmer, ce serait donc un deuxième rebondissement dans l'histoire de ce médicament miracle.
La pastille Viagra et son deuxième effet qui se coule. Slate explique comment la pilule bleue a finalement fait la fortune de Pfizer et de beaucoup d'hommes.
Le coup dur a été évité de justesse. En 1993, un dernier test a été tenté sur des ouvriers pauvres d'une cité minière du pays de Galles. Pour 300 livres, il fallait avaler une pilule et passer une nuit à l'hôpital sous surveillance médicale. De nombreux participants, écrit Slate, ont alors remarqué un effet secondaire surprenant pendant la nuit et quelques-uns ont été assez courageux pour en parler aux responsables de l'étude. 5 ans plus tard naissait le Viagra. Grâce à ces honnêtes mineurs, écrit Slate, la société américaine a pu mettre sur le marché un des médicaments les plus prescrits de l'histoire et réaliser des milliards de dollars de bénéfices. Il est encore trop tôt pour ériger le Viagra en remède providentiel contre Alzheimer, mais si l'étude britannique se vérifie, peut-être que le bonheur va progresser de nouveau, voire les comptes de l'assurance maladie se redresser.
Merci Hervé Gattegnaud. À demain pour d'autres informations tirées de la presse. Tout de suite et sans transition, Franz-Olivier Gisbert.